RNV Podcast. 8h-10h sur RNV, on va pas s'énerver.
Pour la suite de cette matinale, on va accueillir un jeune homme. Un jeune compositeur, auteur, interprète qui débute. Il s'appelle Pierre Collet. Bonjour Pierre Collet.
Je suis obligé d'éclater de rire parce qu'alors, un débutant, oui, on débute toujours dans la vie. Hein. Quand on commence quelque chose, c'est toujours un début. Hein.
Je crois aussi. Dis donc, en cherchant un peu des infos, je me suis rendu compte que ton premier single, ton premier titre, il est sorti chez Barclay dans les années 60.
Oui. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire, 64, 65 à peu près, oui.
Est-ce que c'était le maxi avec « Mets un premier amour » dessus ?
Alors non, ça c'est le second, la
ah
même
mince,
année, mais c'est pas grave.
C'est le premier que j'ai trouvé.
C'est pas grave.
Non, alors non, c'était en 65.
Alors, je vais te répondre non, parce que non, c'était le titre de mon premier, okay. 45 tours,
ouais.
Qui était une chanson de l'Eurovision qui représentait la Suisse à Rome en 65. Voilà, on tombe sur la bonne année.
Barclay, donc Paris, mais j'imagine qu'il s'est passé des choses avant que tu arrives à Paris. Comment t'es arrivé à la musique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ?
La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle qu'on s'interviewe, là, ben, nous sommes à B, on peut le dire.
Bien sûr,
nous sommes à B,
à la gare de B.
C'est toujours dans le canton de Vaud. Hein.
En plus.
Pas dans le Nord.
Pas dans le Nord, en effet.
Pas dans le Nord. Hein. Mais c'est là que j'ai commencé à faire de la musique, puisque tout bêtement, j'avais des amis qui avaient un orchestre.
Mm-hmm.
Et comme j'étais au collège de Saint-Maurice, que j'étais un petit peu connu parce que je jouais du piano, ils m'ont appelé. Bon, la vérité, c'est que j'avais visé un petit peu une sœur d'un de mes amis, n'est-ce pas ?
Pour une jeune
Alors,
femme.
Le meilleur moyen, c'était d'accepter d'aller écouter son orchestre. Avec des grands yeux sur sa sœur, évidemment. Alors, du coup, je les ai écoutés. Alors, c'était horrible, atroce.
C'est vrai.
Pourquoi ? Parce que, bon, c'était des bons copains, mais il y avait une trompette, un accordéon, un sax, je ne sais pas quoi. Alors, vous savez, en musique, chaque instrument ne joue pas dans la même tonalité. Si je vous demande de jouer Do, vous allez entendre une cacophonie parce que pour une trompette, normalement le Do, c'est un vrai Si bémol.
D'accord.
Oui, alors le pitchy, comme on dit chez nous, hein, que ça peut faire. Alors du coup, c'est tellement sympathique que j'ai un peu réécrit les partitions et du coup, je suis devenu leur pianiste. J'ai commencé et les premiers bals à la salle du parc à Bié, mon Dieu, ça remonte début 60.
Mm-hmm.
Avant de partir à Paris, voilà. J'ai fait de l'orchestre de danse un peu partout, dans le canton de Vaud, en Valais aussi.
Et puis qu'est-ce qui t'amène à Paris alors ? L'envie d'aller faire de la musique au Grand Paris, là où il fallait monter quand on était un artiste ?
Oui, puis descendre l'escalier du Lido, bien descendre, puis pas t'en coubler, hein, d'accord. Non, la vérité c'est qu'un ami a envoyé mes chansons à Jacques Brel, la vérité.
D'accord.
Et j'ai eu la chance de recevoir une réponse de Brel, et du coup j'ai pu monter... C'est des rendez-vous, enfin, pour être honnête, dans ses éditions.
Mm-hmm.
Puisqu'il travaillait beaucoup à Paris, mais il n'était pas connu, Brel, à l'époque.
Ça a changé un peu.
Ce n'était pas le grand Brel qu'on a connu.
Oui.
C'est pour ça que c'était peut-être plus facile de le contacter.
C'est pas grave, tu as rencontré Brel. On s'arrête là, ça reste oui. Un homme légendaire.
D'accord, ça marche. Alors non, simplement, ce que je reprocherais au grand Jacques, il me disait toujours, j'adore tes mélodies, mais tes textes. Travaille tes textes, s'il te plaît. J'ai jamais compris pourquoi il disait toujours travaille tes textes. J'ai encore pas compris à l'heure actuelle.
Il n'avait peut-être pas juste la même vision que toi sur les textes, tout simplement. Alors, des personnalités, tu en as rencontré un wagon, hein, vraiment beaucoup de monde, notamment évidemment dans cette période où tu étais avec Barclay et où tu as fait des tournées, des premières parties avec beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, tout à fait. Bah, à queue, avec Johnny, bien sûr. Johnny, c'est assez fantastique parce que avant de le revoir à Paris, je connaissais parce que les gens savent peut-être pas que Johnny a démarré à Genève. Salle de la Réformation, qui était détruite depuis, c'est la seule salle de spectacle de Genève de l'époque, il faut voir. Et il y avait justement un impresario qui s'appelait Jacques Huffard, grand nom aussi dans le showbiz, qui m'avait invité à voir un talentueux, un jeune qui pétait les planches, enfin incroyable. Et c'était ce Johnny. Couché par terre à la manière d'Elvis Presley, et j'étais au milieu de la salle. Ouh, 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 horreur de Johnny, mais alors vraiment horreur.
Hein. T'as fait comme mon grand-père, t'as dit ce sera un feu de paille.
Oui, feu de paille, hein. Allumer le feu.
Mais il a été grand le feu de paille.
Et puis, bon, alors, pour finir l'histoire, bon, bah, on ne s'est plus revu tout ça. Et il s'est trouvé que j'étais engagé par Johnny Stark pour faire les premières parties d'Hallyday, de nouveau en 65, oui, c'est juste. Et le premier gala avait lieu à Toulon, dans un cinéma. Mm-hmm. Et je faisais la première partie, j'ai chanté tout ça. Puis, bon, Johnny rentrait du service militaire, il avait fait son service en Allemagne. Et puis, je me suis dit, mais sacré succès, ce type. Ah, je vais quand même voir sur scène. Je suis resté dans les coulisses. Mm-hmm. Je me suis dit, ce type, c'est une bête de scène.
C'était quand même mieux qu'à Genève, alors.
Ah oui. Et je comprends pourquoi il est devenu Johnny, vraiment. Et voilà, et puis on s'est revus à Gstaad, on s'est revus. Voilà.
Quel blagueur. Et puis bon, bah Johnny, c'est qu'un des petits exemples, évidemment, quand on parle de Johnny, à Sylvie Vartan, pas loin, mais... ah, tu dis.
Non, des fois, ça m'arrive d'être un petit peu...
Mais on peut aussi parler de Cliff Richard, Dionne Warwick,
alors,
du bon monde.
Attention, Dionne Warwick, ça, c'est la plus grande chanteuse américaine.
Ben oui.
Quand je parle de Dionne Warwick, les gens ne savent plus qui c'est. Tu vois, et ça me fait plaisir de voir ton sourire. Et puis, dans tes yeux, je vois que tu connais Dionne Warwick. Elle était très jolie, c'était fantastique. Je me souviens toujours, j'ai toujours une dédicace d'elle, qui est évidemment dans ma salle de musique. Elle regarde toujours, c'est marqué « Success Pierre, forever and ever », quelque chose comme ça. C'était fantastique. Et je me souviens, j'étais en tournée avec elle, souvent, j'allais la voir. Ouais, non, vraiment, c'était une grande artiste, puis elle était surtout sympa.
Et là aussi, tu faisais les premières parties de ces artistes-là?
Oui, tout à fait. Oui, mais bon, je chantais 3 chansons. Oui. Parce qu'à l'époque, je faisais l'anglaise.
D'accord.
C'est très drôle parce que, voilà, la vedette, on disait que c'était l'américaine, oui. Donc c'était après l'entracte. Il y avait l'anglaise et puis il y avait une première partie ou je ne sais plus quoi. Enfin oui, ouais, c'est ça. Mais la vedette s'appelait l'américaine. C'est
et
assez drôle.
Du coup, l'anglaise, c'était un intermède entre la première partie et l'américaine?
C'était avant l'entracte.
C'était avant l'entracte. Okay.
Avant l'entracte, voilà.
Ouais. Un petit peu la mise en pression.
Le moment est de manger un bon sibérien dans les cinémas. Vous voyez ça, à l'entracte.
Du coup, tournée en francophonie aussi dans les pays de l'Est.
Alors beaucoup là, avec une artiste suisse, avec Arlette Zola.
Oui, bien sûr.
À Arlette, on a fait quand même les pays de l'Est, principalement la Bulgarie. Bah, tiens, tu parlais hein, de Sylvie Vartan, bah, de Sofia, bien sûr, la Mariza, c'est ma rivière. Elle existe, la Mariza, c'est une jolie rivière.
Tu allais te balader au bord?
Oui.
De Sylvie Vartan ou de la Mariza?
Est-ce que je suis obligé de répondre?
Non, tu as droit à ton joker. Si je te dis, ce garçon est un jeune espoir, au même titre que Michel Polnareff, Christophe ou Daniel Gérard, ça te rappelle quelque chose?
Oui, des bons souvenirs. Bah, Polnareff, c'est assez gonflé ce que je vais te dire, parce que, bon, bah, écoute, vu mon âge, je crois que je peux le dire, Europe numéro 1 avait une marque de disque AZ. Mm-hmm. Daniel Gérard a été le premier, ça l'a beaucoup aidé, parce que c'était du matraquage radio. Je vous parle d'Henri Dess, qui était dans une autre maison de disques. Pourquoi il a voulu aller chez AZ? Moi, j'étais chez Barclay. Pourquoi j'ai voulu chez AZ? Il y avait le matraquage radio.
Ben bien sûr.
D'Europe 1. Salut les copains. Bah, 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 hein. Ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trouvé avec un jeune, pas antiquaire, mais qui faisait beaucoup les antiquités, qui s'appelait Christophe. Je ne sais pas, il s'appelait Aline.
Il a beaucoup crié.
Je ne sais plus, il a voulu beaucoup crier. Hein. D'accord. Et puis, alors, notre cher Polnareff, hein. Love me, love me. Et franchement, nous étions les 3 espoirs de Lucien Maurice.
C'est quand même chouette.
Oui.
Et là, donc, du coup, tu restes un peu à Paris. Comment ça se passe sur cette période-là?
Alors, écoute, j'avais de la chance parce que j'ai habité rue de la Gaîté. Rue de la Gaîté, c'est Bobineau. Mm-hmm. Et Bobineau, à l'époque, c'était... Parlons pas de concurrents parce que l'Olympia, c'était 2 choses qui marchaient très fort. Bobineau, on va dire que c'est la rive gauche, c'est plutôt très chanson française. Et puis Olympia, c'est les uns les autres quand même. Sardou, bon, a fait Bobineau au départ. Hein. Moi, je me souviens, c'est là que je l'ai connu. Puis en face de Bobineau, il y avait un restaurant, café, qui s'appelait La Belle Polonaise.
D'accord.
Et là, vu que j'habitais à côté, c'est là que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'artistes, que ça, Jean Ferrat, Eddie Mitchell, qu'est-ce qu'on va dire, Sardou, bien sûr. Mais je pourrais en citer des centaines. Non, des centaines, j'exagère. Mais enfin bref, Brassens, Claude Nougaro, mon Dieu. Je me souviens toujours, Claude Nougaro, j'étais avec lui au Zing, puisque le Zing, c'est là qu'on buvait un verre. Arrive un mec, non, c'est pas Coluche, hein, mais sort d'un mec. Non. Avec vraiment la veste de cuir, comme ça, elle arrive là, elle roule les mécaniques. Claude, salut, je suis le fils à Fernand, je fais ta première partie, j'espère qu'on va bien s'entendre, salut. Claude, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ce con? C'est Michel. Il sort d'où? Bon, c'est méchant, hein, mais on peut se permettre, écoute, parce que c'est tout ça en grande camaraderie, je vous assure.
Oui, c'est des bonnes blagues, évidemment.
Oui.
Alors, bon, ça, c'est la période parisienne, mais tu finis par revenir en Suisse.
Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à un moment donné, il faut dire franchement, c'est où tu deviens ringard, et c'est difficile parce que c'est pas qu'on ne veut plus, mais on te fait sentir que... Enfin bref, alors bon, j'ai beaucoup travaillé dans les éditions, comme j'écris la musique, j'ai pu faire beaucoup de choses, rendre service, tout ça. Mais au niveau, disons, chanteur, au niveau notoriété, je me suis rendu compte à un moment donné que j'aimais trop ce métier pour, je veux pas dire, pour mal le faire ou le faire avec envie, avec... je sais pas comment m'expliquer. J'ai préféré revenir en Suisse. Et puis, j'ai eu l'occasion de rentrer à la télévision romande, à Telvessia, donc, qui s'occupait des fictions, tout ça. J'ai pu faire beaucoup de musique. Donc, finalement, je suis très content, tout ça.
Bah oui, parce que tu as fait des génériques pour la télévision, tu as fait de la musique pour le cinéma aussi,
oui,
pour des téléfilms, pour plein de choses. On peut notamment citer La Martingale, par exemple,
hein,
sur laquelle tu as travaillé.
Oui.
Ce film d'Alain Bloch. Et d'ailleurs, La Martingale, je me suis rendu compte que tu n'étais pas tout seul. Il y avait notamment John Mouloff et Sébastien Santamaria.
Ah bah évidemment. Hein. Écoute, c'est eux qui ont joué la musique. Et puis quand je dis jouer, ils ont beaucoup mis de leur génie. Hein. Faut être honnête. Tu écris une partition... Par exemple, je me souviens, pour Santa Maria, ma partie sur le piano, c'était carrément en accord. Moi, je suis incapable de le faire. Mm-hmm. Entre l'aigu et tout ça, ils jouaient la mélodie carrément avec le pouce et puis le petit glinglin, carrément, à l'octave, d'une précision incroyable. C'était un génie, tout ça. Donc, ils ont apporté, John Wolof aussi, ont apporté, et c'était aussi, il y avait un que tu oublies, c'est Hernál Kisincsay, c'est possible, qui était l'accompagnateur de David Bowie.
Ok.
Hein, et on a fait la musique tous ensemble, à trois ou quatre, voilà.
Excellent.
Et quand j'ai vu arriver Hernál, je me suis dit, mais qui c'est ce clown ? Il avait une guitare, il avait un violon, il avait une basse, il avait... Je ne sais pas quoi, c'est la figure avec ses instruments. En rentrant dans le studio, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette nerf humaine ? On me l'avait recommandé, des génies tous ces trois, franchement.
T'as vite compris ce qu'il était venu faire là.
Oui, oui.
Et puis tu t'es frotté à l'Eurovision aussi.
Oh, c'est quand même des très bons souvenirs, oui.
Ouais.
J'ai fait en tout cas 5 trucs pour la sélection suisse, oui. Mais la première, on a failli gagner à un point, on a perdu à un point. Bon, à Lugano, bon, tant pis, hein, c'est le jeu, il faut être conscient que ce
métier,
oui, ça reste
c'est un
comme
concours.
Ça. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Tout à fait.
Quand on parle d'Eurovision, du coup, tu travaillais pour les autres. L'idée, c'était que tu proposais des mélodies ou des textes et que d'autres les interprétaient.
Tout à fait. C'est-à-dire, il y a toujours les sélections. Hein. Donc, il fallait envoyer. Puis, il y avait un comité d'écoute qui sélectionnait une dizaine de chansons. C'était aussi avec les Suisses alémaniques, oui, Tessin. Donc, 10 chansons. Quand c'était 3 romandes, 3 alémaniques, ce qui fait 6. Et puis, 2, on arrivait à être 9 et 10 chansons. Et puis, il y avait un concours, souvent à Lugano. J'étais très bien reçu à Lugano, là-bas. Et puis, bon, il y avait le concours, le public votait, il y avait aussi les experts, bien sûr, tout ça, voilà. Ça se passait aussi simplement que ça.
Est-ce que de travailler pour les autres, d'écrire pour une ou un interprète qui n'est pas toi, c'est différent d'écrire pour soi-même ?
Alors, soyons francs, j'ai jamais écrit pour des chanteurs connus.
Oui.
On est d'accord. Hein. Par contre, comme j'ai écrit une comédie musicale et j'ai voulu faire cette comédie musicale avec des amateurs...
Oui, La Trace.
Alors là, j'ai écrit... j'ai écrit tout simplement, je ne sais pas. Et j'ai vraiment trouvé des amateurs qui ont su mettre leurs pattes. Je ne peux pas m'expliquer.
Tu as travaillé directement en fait, avec des artistes du Valais, des gens qui étaient autour de toi.
Ah oui, tout à fait. Ça, j'adore. Oui. J'avais une école de coaching de chant que j'ai fait à Montaix aussi, oui. Bon, là, j'ai eu plus de chance avec les jeunes filles. J'ai eu 60 élèves, j'ai en tout cas 58 jeunes filles pour 2 mecs, hein, ah, 2 gars.
C'est peut-être plus facile de chanter quand on a peut-être plus ça dans le sang quand on a une demoiselle au début. Et puis, parle-moi, aussi, il y a quand même une chanson qui a aussi marqué ces 30 dernières années qui s'appelle La Messaline.
Alors, La Messaline, c'est le plus beau texte qu'a écrit Sandra Mambouri. Je veux parler de Sandra parce que c'est l'encre bleue de la Tribune de Genève.
Oui.
C'est la Julie, elle a travaillé plus de 30 ans. Elle m'a écrit beaucoup de textes de chansons. C'est une fille fabuleuse.
Mais je vois, l'émotion vient.
Oui.
Oui, oui.
Non, c'est quelqu'un de fantastique, quoi. Voilà. Je suis ému.
Je vois ça.
Je ne m'attendais pas.
Chanson qui a été élue meilleure chanson francophone aussi, au passage. Hein.
Oui, ben, j'ai eu de la chance. Bon, alors ça, c'était... c'est pas long à raconter, mais la SACEM voulait faire un prix de la chanson francophone. Et du coup, il fallait envoyer des maquettes. J'ai envoyé une maquette et j'ai reçu... Ils m'ont dit, on a reçu 200 chansons, un peu des pays francophones. Vous êtes sélectionnés, mais il faudra nous envoyer un interprète.
D'accord.
mais je n'ai pas trouvé d'interprète. Alors j'y étais moi-même.
Bah oui.
Mais seulement le jour du concours, quand je suis arrivé avec la voiture, mon copain de la télé qui m'avait conduit jusque... C'était à Vichy, sur Ferrat, près de Vichy. Saint-Maur-les-Fossés, voilà.
Okay.
Je suis arrivé de cette grande toile, cette grande tente. J'ai dit à mon copain, on les rentre en Suisse. Non, je ne chante pas, je ne peux pas. Il a vraiment insisté, mais non, pire, tu ne fais pas le crétin.
Ça commence par la même lettre.
Hein.
Ouais, c'est ça.
Allez, non, tu t'es inscrit. Et puis, évidemment, j'ai eu la chance. Puis surtout, en plus du Grand Prix, c'est aussi le Grand Prix du public. Et ça, j'ai été touché.
Ah bah oui, la reconnaissance des gens qui t'écoutent, évidemment, c'est celle qui vient du cœur.
Mais oui, et puis bon, quand on est artiste, on aime bien aussi d'être reconnu aussi un petit peu, quoi, ça fait plaisir.
Ça te fait bientôt 60 ans de carrière, tu te rends compte ?
Aïe.
Ouais, l'année prochaine.
Ouais, c'est fou.
Parce que bah, t'as beau avoir les années qui passent, tu continues de chanter encore aujourd'hui.
Alors, chanter, c'est difficile parce que, écoute, la voix, je pense qu'elle vieillit. Certaines chansons, je peux encore.
Ouais.
Le gâteau aux prunes, je peux encore. Mais il y a des chansons, les aigus.
Elles se sont un peu garées en route.
Oui, écoute, j'ai bien la pression. Non, je compose beaucoup, voilà.
Ouais.
Toujours des chansons. Et puis là, je suis en train de faire. J'écris une symphonie rock là, qui s'appelle Derborance.
Oui, rien que ça.
Oui, rien que ça. On va penser à Ramu, souvenir d'enfance, de collège. Eh oui.
Et cette passion donc, pour la musique, elle ne te quitte pas finalement ?
Non, puis elle m'a aidé à vivre finalement. Mm-hmm. Et puis à rencontrer beaucoup de monde et puis à faire du plaisir, je crois que c'est ça. Puis la créativité, c'est bien.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour les mois, les années à venir ?
Encore quelques années.
Ouais. Le temps de composer plein de choses encore ?
On dit mon âge ou bien ?
Bah, écoute, si tu veux.
Ne dites pas mon âge, car je veux garder mes 20 ans. C'est un texte que je suis en train de concocter.
On dira que les 20 ans sont passés quelques fois. Merci beaucoup, Pierre.
Merci pour ton émission.
Avec plaisir.
Très chouette. Merci.
Moi, je la voulais entre femme et enfant, le sourire ruisselant des giboulées de mai. Je l'avais rêvé entre lune et soleil, entre vie et sommeil, entre vents et marées. Je la voulais couleur de ciel, la messaline de mes nuits blanches, aux paupières d'algues marines, aux paupières d'algues marines, d'algues marines. La messaline de mes nuits blanches, aux paupières d'algues marines, aux paupières d'algues marines, d'algues marines. Mais je reste là, entre rire et tourment, comme un petit enfant qui fait son premier pas. Et je ne sais pas comment lui dévoiler, entre espoir et regret, entre décembre et mai, que je l'aime déjà, déjà. La messaline de mes nuits blanches, aux paupières d'algues marines, aux paupières d'algues marines, d'algues marines. Je l'ai rêvé entre diable et archange, avec les mots étranges des gardiens de secrets. Ma messaline aux gestes de princesse, je te voulais goût d'aventure. La messaline de mes nuits blanches, aux paupières d'algues marines, aux paupières d'algues marines. D'algues marines, aux paupières d'algues marines, d'algues marines, la messaline.
www.radionv.ch